Kering, qui investit donc 1,3 milliard d'euros à Milan dans la seconde rue la plus chère du monde. Bonjour Philippe.
Bonjour David.
Philippe Escande, éditorialiste au Monde. C'est une opération qui est sans précédent en Europe pour le vendeur d'un immeuble. Je donne l'adresse au 8 Via Monte Napoleone, c'est à Milan. Une rue évidemment avec beaucoup de marques de luxe, j'imagine. Pourquoi cette acquisition, 1,3 milliard d'euros, alors qu'on sait que Kering a fait un avertissement sur résultat il y a quelques semaines, l'action a plongé de 12%, c'était je crois le 20 mars dernier, 35% de baisse pour le cours sur un an. Ça peut paraître paradoxal.
Oui, en effet, hein, ce n'est pas la crise de l'immobilier pour tout le monde en plus. C'est vrai que Kering, là, a fait une de ses plus grosses acquisitions, probablement la plus grosse même, et une des plus importantes depuis quelques années, hein, en tout cas sur l'Europe. Alors pourquoi effectivement Kering investit comme ça? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce 1,3 milliard dans cette Via Monte Napoleone et à Milan, ça vient après plus de 885 millions d'euros sur la 5e avenue à New York, plus pratiquement autant en acquisition sur l'avenue Montaigne à Paris. Et donc, effectivement, il y a une frénésie qui ne touche pas que Kering, mais qui où Kering excelle un peu dans ce domaine, puisque c'est eux qui ont fait le plus d'acquisitions immobilières. Alors, effectivement, il y a d'une part une vraie réflexion commerciale, je dirais, c'est que quand on a des marques de luxe, il faut absolument sécuriser les endroits les plus chics de la ville la plus chic, hein, puisqu'on s'adresse à une clientèle très particulière. Et donc, là, il y a une concentration, en fait, pour ces grandes marques à s'implanter du côté des Champs-Élysées quand on est à Paris, du côté de la 5e avenue quand on est à New York, du côté de la Via Napoleone quand on est à Milan, au Omotesando à Tokyo, enfin, c'est tous les endroits bah, vraiment du luxe. Ça fait partie en fait de l'exclusivité de la marque et quelque part ils peuvent un peu se récupérer aussi sur la marge qu'ils font, sur le prestige pour justifier de tels investissements. Mais c'est pas la seule raison en fait, parce que c'est vrai que ce sont des investissements qui ont une rentabilité assez faible. Alors évidemment alloués, ils sont également très très chers, donc on peut dire qu'il y a une certaine rentabilité dans cet investissement, mais d'un autre côté leurs activités dans le luxe leur rapportent une marge et une rentabilité beaucoup plus importante. Mais ils tiennent quand même à être de grands propriétaires immobiliers également parce que ce sont des entreprises familiales et que pour une entreprise familiale, il faut avoir des actifs solides dans le temps. Et il y a donc aussi à la fois chez LVMH, chez Prada, chez Kering, c'est-à-dire vraiment ces très grandes marques, la nécessité, l'obsession un peu aussi d'avoir un très grand portefeuille d'actifs, très diversifié. On achète aussi des grands vins, on a des musées, on a tout un tas d'actifs comme ça qui à la fois participent du prestige de la marque, mais aussi qui constituent un patrimoine qui a vocation à pouvoir être transmis de génération en génération. Donc il y a, je pense, ces deux aspects-là dans cette course à l'immobilier de luxe des grandes marques.
Ouais, parce que pour un immeuble de 12 000 mètres carrés, quand on fait le calcul, ça fait quand même 100 000 euros du mètre. Je pense que c'est une transaction record sur le sol européen, ça, non ?
Oui, tout à fait. C'est une transaction record. C'est Blackstone, le fonds d'investissement, qui a eu le nez creux parce que ils ont effectivement très bien vendu cet actif milanais. Et effectivement, ce sont des… alors, il y a 5 000 m² de magasins. Il y a effectivement à peu près 12 000 m² au total. Donc, il y a des bureaux, puis il y a les magasins. 5 000 m² de magasins, voilà. Donc, effectivement, les experts qui regardent un petit peu ces marchés disent que ça peut se louer entre 50 et 80 millions d'euros par an de tels surface. Donc, il y a quand même une forme de rentabilité, mais c'est effectivement absolument considérable.
Ouais, d'autant qu'il y a une bataille, évidemment, en toile de fond, entre tous ces géants du luxe pour ces mètres carrés qui sont situés sur les meilleures artères de shopping dans le monde, évidemment.
Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que il y a le côté exclusif, c'est le côté exclusif du produit, mais c'est aussi le côté exclusif de l'endroit où la compétition fait rage, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la même avenue, eh bien, on va trouver le LVMH, le Gucci, le Hermès, enfin, en général, dans toutes ces. D'ailleurs, il y a une forme d'uniformisation de ce marché à travers le monde où effectivement dans ces grandes avenues on va trouver un petit peu le même type de commerce et donc il y a une forme de concurrence qui
Ouais.
s'installe entre toutes ces marques.
Et ça pousse les prix à la hausse. Vous parliez de Philippe de Gucci, qui est loin d'avoir retrouvé sa dynamique et qui pèse sur l'ensemble aujourd'hui du groupe de luxe. Pourquoi Gucci souffre toujours et comment Kering peut remettre Gucci sur de bons rails?
Alors, effectivement, Gucci, c'est très très important. Donc, c'est le cœur du finalement aujourd'hui, c'est encore le cœur du réacteur de Kering puisque c'est la moitié de ses ventes et puis c'est les 2 tiers de ses profits. Donc, effectivement, quand vous l'avez rappelé il y a quelques semaines, Kering a indiqué que les ventes allaient baisser de 20%. Eh bien, c'est le cours de bourse qui lui aussi a baissé presque d'autant parce que c'est effectivement la principale la plus importante source de profit. Alors, le problème, c'est que Gucci, c'est ce que les spécialistes appellent une marque de mode, ce qui est un peu différent d'une marque de luxe. Marque de luxe, c'est quelque chose d'assez intemporel, c'est un peu toujours le même produit qu'on essaye de vendre, qu'on modifie légèrement, mais on vend aussi de la tradition. La mode, c'est tout à fait le contraire. On vend de la nouveauté, on vend de la créativité, de l'originalité. Et ces grandes marques, elles balancent toujours entre la tradition et l'innovation, la modernité. Il se trouve que Gucci, c'était vraiment dans ce domaine-là, et avec un designer qui était effectivement très génération grosses fleurs, hippie, pattes d'éléphant, etc. Donc, un espèce de retour vers les années 70 qui a bien fonctionné pendant très longtemps, qui a redressé spectaculairement Gucci, et puis c'est une mode qui est passée de mode, si on peut dire. Et aujourd'hui, il y a un retour vers des choses beaucoup plus traditionnelles. Et donc, depuis quelques mois, ils ont un nouveau directeur de création qui, lui, a une mode beaucoup plus sage, etc. Est-ce que ça va marcher? C'est pas du tout certain, parce qu'il y a évidemment de la concurrence, surtout si on fait. Si on est un peu moins créatif, évidemment, on se distingue aussi moins des autres. Donc, il y a un vrai sujet, en fait, chez Gucci et derrière un peu chez Kering, de renouvellement quand on se situe sur ce créneau de la mode plus que de la tradition.
Ouais, François-Henri Pinault d'ailleurs qui a dépêché son plus fidèle bras droit, Jean-François Palus, qu'on avait reçu ici sur Boursorama, qui était le directeur général délégué de Kering, pour s'occuper, entre guillemets, de remettre sur de bons rails Gucci.
Oui, et alors c'est d'autant plus intéressant. Je disais que cette obsession immobilière chez les grands du luxe, ça vient aussi d'un réflexe patrimonial. Et c'est patrimonial parce que en général, ce sont des familles chez Hermès, chez LVMH, chez Kering. Ce sont des familles et qu'elles se préoccupent évidemment de l'avenir et d'essayer de bâtir une dynastie et donc de leur succession. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a noté que hier également, il y avait la première arrivée du fils de François-Henri Pinault, donc du petit-fils du fondateur François Pinault, hein, de ce groupe. Et le petit-fils, il a 26 ans et il a été nommé administrateur de Christie's, la grande maison de vente aux enchères de Londres. Et
Qu'est-ce que
donc
ça
cette
nous
arrivée,
envoie? Qu'est-ce que ça nous envoie comme signal, ça?
ben ça envoie comme signal qu'il y a vraiment l'ambition dynastique que on veut absolument rester continuer à en faire un groupe familial. Alors, c'est vraiment tout à fait le début, hein. Il est dans une filiale qui n'appartient même pas à Kering, d'ailleurs qui appartient à Artemis, qui est la holding de tête, qui elle-même possède Kering. Mais en même temps, ça envoie effectivement le signal que on est en train d'assister à un changement de génération. Le François Pinault, donc le fondateur, avait passé la main au début des années 2000, en 2003, et là, maintenant, on commence à voir, et on l'a vu également chez LVMH avec l'un des fils de Bernard Arnault qui est monté en grade. On voit qu'on commence en fait le passage de témoin à cette troisième génération qui, en général, est la plus difficile. Pour faire perdurer les entreprises, hein. On dit toujours que avec les fils ça se développe et avec les petits-fils, ben on sait pas trop, mais parfois ça n'arrive pas à tenir les promesses.
Allez, merci beaucoup. Décryptage, explication signée Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, salut.
Au revoir.